pensez à covoiturer.
Vous écoutez Europe 1, il est 16h. Toute l'actualité avec Adrien Spiteri. Bonjour Adrien.
Bonjour Anthony, bonjour à tous. Appelé à se confiner, la population israélienne peut sortir des abris après une série de tirs de missiles envoyés depuis l'Iran. Dans le même temps, l'État hébreu poursuit ses frappes et appelle les civils à évacuer les zones autour des sites militaires et nucléaires. L'Iran payera un prix très lourd pour le meurtre prémédité de civils, a déclaré Benjamin Netanyahou cet après-midi. Depuis vendredi en Israël, 13 personnes ont été tuées. L'Iran, de son côté, assure que ces attaques cesseront quand Israël mettra un terme à son agression. Le ministre des Affaires étrangères iranien accuse aussi Tel Aviv de chercher à faire dérailler les négociations sur le nucléaire avec les États-Unis. Les autorités précisent que 128 personnes sont mortes dans le pays depuis vendredi. L'Iran qui fait aussi une demande cet après-midi à l'Irak, celle d'interdire à Israël d'utiliser son espace aérien et son territoire pour ses attaques. Cette guerre continue de faire réagir la communauté internationale. Le chancelier allemand appelle à un renforcement de la protection des sites israéliens et juifs dans le pays. Une demande similaire avait été formulée hier en France au préfet. Le préfet justement de la Seine-Saint-Denis va écrire au maire de Saint-Denis. Le but, lui demander le retrait du drapeau palestinien hissé sur la façade de l'hôtel de ville. C'était il y a 2 jours à l'occasion d'un rassemblement pour un cessez-le-feu à Gaza. Le préfet dit appliquer le principe de neutralité des services publics. Emmanuel Macron, lui, est arrivé au Groenland pour exprimer sa solidarité, dit-il. Il est le premier chef d'État étranger à se rendre sur le territoire depuis les menaces d'annexion lancées par Donald Trump. Selon le président, le Groenland n'est pas à prendre. Toujours dans l'actualité politique, LFI demande aujourd'hui des excuses après la prise de parole de Jérôme Guedj hier au congrès du PS à Nancy, congrès qui s'achève aujourd'hui. Il a qualifié le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, de salopard antisémite. L'épisode orageux qui touche la France depuis maintenant plusieurs jours perd en intensité aujourd'hui, mais une dizaine de départements de l'Est restent en vigilance orange. Ces orages ont provoqué 2 décès sur le territoire, dont un à Paris. En bref, Trenitalia lance une nouvelle ligne à grande vitesse entre Paris et Marseille. La compagnie italienne assurera 4 allers-retours par jour. Objectif, concurrencer les TGV de la SNCF. Les obsèques de certaines victimes du crash du Boeing 787 d'Air India ont débuté aujourd'hui, 72 heures après le drame. Ce matin, au moins 12 corps ont été rendus aux familles. Au total, 279 personnes ont perdu la vie jeudi dans l'accident. L'Ukraine dit avoir reçu 1200 corps supplémentaires dans le cadre d'un accord d'échange avec la Russie. Il avait été conclu à Istanbul au début du mois. Dans le même temps, la guerre se poursuit entre les deux pays. Et puis on termine avec un mot de sport et les 24 heures du Mans qui viennent à l'instant de s'achever avec la victoire d'une Ferrari.
Europe 1.
Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Dans un instant, la semaine politique se poursuit avec Alexis Delafontaine sur Europe 1.
La semaine politique Europe 1.
Alexis Delafontaine.
Vous êtes toujours sur Europe 1 et bienvenue dans la semaine politique. Et maintenant, nous allons écouter le compte-rendu du Conseil des ministres avec la porte-parole du gouvernement, Sophie Prima.
Bonjour à tous. Quelques mots sur le Conseil des ministres de ce matin, donc du 12 juin 2025. Ce Conseil des ministres a été marqué par une intervention assez importante du président de la République en propos liminaire de ce Conseil des ministres pour évoquer son émotion, évidemment, à la suite des événements de nos gens et évidemment apporter son soutien à l'ensemble de la famille et de la communauté éducative. Également parler de ce drame de nos gens comme d'une montée, une désinhibition de la violence dans notre pays, pour laquelle il va falloir évidemment apporter des solutions et une question de hiérarchie des valeurs, et notamment la valeur de la vie qui aujourd'hui semble être menacée. En réalité, le président de la République a salué la réaction du gouvernement, a encouragé effectivement les différentes mesures qui sont prises ou qui vont être prises dans les semaines suivantes et a rappelé que ce travail est un travail de longue haleine, qu'il n'y a pas de mesures qui soient des mesures magiques et que c'est un travail qui va consister à s'attaquer à toutes les raisons dans leur diversité et à toutes les causes dans leur diversité. En dehors de ce sujet, le Conseil des ministres de cette semaine était placé sous le signe du numérique. Et comme vous le savez, quelques mois seulement après avoir accueilli le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, Paris est de nouveau la capitale du monde des nouvelles technologies à l'occasion de l'édition 2025 du salon VivaTech. Ma collègue Clara Chappas, que je remercie d'être ici, est donc présente aujourd'hui à mes côtés pour vous parler de ce sujet. Avant de lui céder la parole, je voudrais revenir sur deux autres textes qui étaient à l'ordre du jour du Conseil des ministres. Un premier texte porté par la ministre d'État Elisabeth Borne, qui a présenté une ordonnance qui fixe les modalités d'intégration des personnels enseignants du premier degré des îles Wallis et Futuna dans le corps des professeurs des écoles et qui définit les modalités de leur affiliation au régime géré par la Caisse des prestations sociales des îles Wallis et Futuna ou au régime spécial des pensions des fonctionnaires de l'État. C'est un sujet évidemment très ciblé, mais très important pour ces îles et pour permettre une rentrée au mois de septembre de cette année qui se fasse dans les meilleures conditions pour le corps des professeurs. Les ministres Éric Lombard, François Rebsamen et Amélie de Montchalin ont ensuite présenté une ordonnance également visant à généraliser la mise en œuvre par les collectivités territoriales de ce qu'on appelle le compte financier unique, qui est un nouveau document budgétaire. Je veux dire ici que c'est un acte de simplification absolument majeur pour les collectivités territoriales, car ce compte financier unique permettra de favoriser la transparence et la lisibilité de l'information financière. Il permettra également d'améliorer la qualité des comptes. Il permettra la simplification des processus administratifs. Et vous savez que quand on simplifie les processus administratifs, on simplifie aussi tous ceux qui les contrôlent et on simplifie aussi les dépenses publiques pour contrôler. Et enfin, ça aboutit à une confection à 100% dématérialisée de cet ensemble de démarches financières pour les collectivités territoriales. Pour rendre à César ce qui est à César, c'est un chantier qui avait été démarré par Gérald Darmanin, alors ministre des Comptes publics, et qui se concrétise enfin après toutes ces années de mise en œuvre, d'efforts. Mais c'est un acte majeur pour nos collectivités territoriales qui rentre dans le plan de simplification que nous soutenons et qui sera source de fluidité, d'agilité et aussi de meilleure efficience de l'utilisation de l'argent public. Voilà, je vais laisser la parole à Clara sur la partie numérique qui nous a beaucoup occupé aussi pendant le Conseil des ministres avec, tu le diras Clara, une intervention très importante du président de la République.
Merci. Merci Madame la Ministre, chère Sophie. Vous l'avez dit, cette semaine s'ouvre VivaTech. Hier plutôt s'est ouvert VivaTech qui en 9 ans est devenu le plus gros salon de la technologie au monde. C'est absolument important parce que c'est ce qui permet aujourd'hui de faire que notre pays rayonne pour l'innovation. Les Échos titraient en une « Les startups françaises, étendard de la souveraineté ». Et c'est bien ce sujet de souveraineté numérique sur lequel nous sommes revenus assez longuement pendant le Conseil des ministres. C'est un sujet crucial. Je veux que chacun comprenne l'importance de ce sujet. Le rapport Draghi l'a montré. Quand on regarde le décrochage économique entre l'Europe et les États-Unis, 70% de ce décrochage est lié à ralentissement technologique et notamment de la diffusion de cette technologie dans notre économie. C'est un sujet donc qui est fondamental au projet d'autonomie stratégique porté par le président de la République depuis 2017. C'est un sujet de protection aussi, des données notamment, nous y reviendrons. C'est un sujet de réduction de nos vulnérabilités et de nos dépendances, un sujet de société majeur. Ça me permet peut-être de vous rappeler d'abord pourquoi, quand les Échos titrent les startups françaises étendard de la souveraineté, nous en sommes déjà ici aujourd'hui. Depuis 2017, le président de la République a porté une politique très volontariste sur la question de la technologie qui fait que nous sommes reconnus comme pays d'innovation Nous avons un classement d'ailleurs qui a indiqué que Paris était la première ville européenne de l'innovation dans le monde. Et ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'une politique volontariste, d'une économie ouverte, compétitive, qui encourage l'investissement, qui attire les talents, qui investit dans ces talents pour les encourager à innover. C'est le résultat aussi de l'accès à notre énergie bas carbone, qui est un atout absolument fondamental, notamment dans la course à l'intelligence artificielle, et qui fait qu'aujourd'hui, nous avons en France non seulement VivaTech, mais derrière VivaTech, 25 000 startups qui ont créé plus de 1 million d'emplois, 1 300 000 emplois, et qui sont les conditions de cette souveraineté, les conditions d'innovation française et européenne. Nous continuerons bien sûr à les valoriser, à les soutenir, tout en ayant aussi à cœur toujours plus d'agilité, notamment dans le projet de loi simplification, faire en sorte que nous puissions continuer à accélérer, notamment autour des grands projets comme les projets de data center, j'y reviendrai. Ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est de remonter la chaîne de valeur. C'est absolument fondamental parce qu'il n'y a pas de souveraineté numérique sans être complètement autonome sur la question des infrastructures. C'est vraiment la condition sine qua non de notre souveraineté numérique. Et c'est ce que nous avons fait depuis maintenant quelques mois. D'abord, lors du sommet pour l'action sur l'IA, je me permets de rappeler les 109 milliards d'euros d'investissement qui ont été annoncés. À Choose France, les 37 milliards d'euros d'investissement dans l'intelligence artificielle pour créer, attirer les talents, attirer les investissements et créer ces infrastructures ici en France, qui sont les conditions pour innover sur l'intelligence artificielle, les capacités de calcul dont ont besoin nos chercheurs, dont ont besoin nos entrepreneurs pour développer les modèles d'intelligence artificielle dont nous avons besoin. À VivaTech, certaines annonces vont aussi dans ce sens. Vous avez peut-être vu l'annonce de Nvidia et de Mistral hier, ou encore celle de Foxconn, Thales et Radial, qui visent, encore une fois, à remonter cette chaîne de valeur pour garantir notre souveraineté. Il nous faudra, pour aller toujours plus loin, accélérer la diffusion de la technologie. Nous en avons parlé assez longuement. D'abord, au sein de l'État, au sein des administrations. Je me permets de m'arrêter sur ce point parce qu'aujourd'hui, la commande publique n'est pas encore un levier à la mesure de l'opportunité qu'elle représente pour l'innovation et pour les entreprises. D'abord, pour protéger nos données, il s'agit de mobiliser la commande publique et c'est ce que nous avons fait avec le label SecNumCloud depuis 2016, renforcé par la circulaire de la ministre d'État, alors première ministre Elisabeth Borne, renforcer l'utilisation de solutions souveraines pour l'hébergement de données pour nos administrations. C'est un impératif, notamment dans le contexte géopolitique actuel, mais pas que, parce que la commande publique, ce n'est pas simplement se protéger, mais c'est bien aussi un levier pour développer nos entreprises. Et il nous faut sortir de ce réflexe que nous avons parfois eu de construire l'innovation en interne plutôt que de s'appuyer sur le marché. Avoir les compétences, c'est important, bien sûr. Avoir un certain nombre de briques en tant qu'État, c'est important aussi. Mais quand nous avons des solutions, notamment en intelligence artificielle, qui sont parmi les meilleures du marché, si nous ne mobilisons pas la commande publique pour les soutenir, pour accélérer la diffusion de ces technologies et donc le poids économique de ces entreprises, nous prenons le risque de nous retrouver pour l'intelligence artificielle dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui sur d'autres technologies. C'est pourquoi nous avons annoncé avec mon collègue Laurent Marcangeli, comme nous vous l'avions dit lors du sommet pour l'action sur l'IA, que nous équiperons les agents publics d'agents d'intelligence artificielle et nous sommes très fiers de l'annoncer aujourd'hui. Mistral sera la solution qui aujourd'hui rentre en phase de test pour équiper les agents avec 10 000 agents. L'objectif est bien celui d'équiper l'intégralité des agents dans les mois qui viennent. Pourquoi c'est un exemple important? Parce que, un, on voit bien comment la technologie, c'est à la fois un enjeu économique, mais c'est aussi un enjeu de productivité. Et accélérer les cas d'usage dans l'administration, via l'intelligence artificielle, c'est ce qui peut nous permettre aussi d'être plus productifs et donc de passer plus de temps à améliorer le service auprès de nos usagers. Deux, c'est un enjeu de souveraineté. On s'appuie sur une solution française. Et c'est un levier pour l'entreprise, parce que l'entreprise peut accéder à un marché qui va lui permettre de se développer. Donc les trois éléments de souveraineté sont réunis dans cet exemple-là. Accélérer la diffusion, ce n'est pas seulement une question des administrations et de l'État, c'est aussi une question du marché privé, sur lequel nous avions lancé il y a 2 ans maintenant une initiative qui s'appelle « Je choisis la French Tech » et qui vise à inviter, encourager, obtenir des engagements concrets d'un certain nombre d'entreprises, de grandes entreprises, pour que lorsqu'elles se tournent vers des solutions d'innovation, elles se tournent d'abord vers nos solutions françaises et européennes. Elles peuvent ainsi accéder au meilleur de l'innovation, mais aussi soutenir le développement de ces entreprises. Nous avions annoncé l'année dernière un peu plus de 600 millions d'euros d'investissement de certaines très grandes entreprises comme Orange, Thales. Il y aura d'autres annonces auprès du Premier ministre tout à l'heure au sein même du salon Vivatech. Ce réflexe de mobiliser pour accélérer la diffusion de l'innovation et donc rattraper notre retard en continuant à investir dans les talents, dans la science, utiliser notre énergie bas carbone, continuer à rendre cet environnement entrepreneurial très attractif qui fait que nous sommes aujourd'hui champions d'Europe pour l'innovation, pour la technologie. Il doit se coupler d'un réflexe européen, et j'en terminerai là-dessus. Nous sommes absolument mobilisés, j'étais au Conseil des ministres européens la semaine dernière, nous sommes absolument mobilisés pour porter cette voie de l'utilisation de la commande publique au niveau européen pour faciliter la diffusion de l'innovation et l'accélération de l'innovation. C'est un levier qui peut être très puissant et qui peut nous permettre d'accélérer et de rattraper une certaine partie de notre retard. Je vous remercie.
La semaine politique Europe 1.
Alexis de la Fontaine.
À tous ceux qui se retrouvent entre potes quand c'est soir de match, mais faites pas trop de bruit, il y en a peut-être qui dort à côté. Et à ceux qui vont devoir apprendre à crier sur l'arbitre, mais en chuchotant. Mais il y a faute là! Carton, monsieur l'arbitre! Oh. Dès mardi, Intermarché vous offre 80% en avantage carte sur tous les produits de la marque Pampers. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 22 juin, des 30 euros d'achat et dans la limite de 40 euros, modalité sur intermarché.com.
Rouler en électrique ou hybride? Ok. Avec la qualité allemande? Évidemment. Et sans dépasser son budget? Toujours. Avec Opel, vous cochez toutes les cases. Pendant les portes ouvertes, Opel vous offre jusqu'à 8000 euros d'avantages clients sur une sélection de véhicules disponibles immédiatement. Alors n'attendez plus, rendez-vous chez votre concessionnaire Opel. 8000 euros se composant d'une remise sur le prix d'une Opel Astra hybride rechargeable neuve et d'une prime reprise. Offre à particulier sur véhicules en stock jusqu'au 24 juin dans le réseau participant. Détails sur opel.fr. Pensez à covoiturer.
Tout a pris feu et tout s'est écroulé.
Quand Annick a perdu sa maison, Elodie, son agent mutuel de Poitiers, était là pour elle.
Il fallait beaucoup la soutenir.
Moi, ce qu'il fallait, c'est quelqu'un sur qui je peux compter, qui soit sincère.
Moi, je connais tous mes sociétaires et je connais tous mes dossiers sinistres. Donc l'accompagnement, on l'aura plus qu'un assureur lambda. Ça, c'est certain.
Ça, c'est la vérité. Ça ne serait pas vrai, je ne le dirais pas. Hein. Non, négatif.
Mutuelle de Poitiers Assurance, votre assureur vous connaît. Et pour vous, ça change tout.
Avec Mondial Piscine, chez nous, il y a un endroit pas comme les autres. Un endroit où l'on joue, où l'on rit, où l'on profite des belles journées, où chaque moment devient un souvenir à partager. Un endroit où Mondial Piscine donne vie à nos rêves. Mondial Piscine, conçu pour durer, pensé pour partager. Rendez-vous sur le site Mondial Piscine pour trouver le professionnel le plus proche de chez vous.
Recruter une personne de plus de 50 ans ou jamais de la vie?
Ah, moi, c'est la meilleure décision que j'ai prise. J'ai recruté Sophie, 55 ans, pour être vendeuse dans mon magasin. Grâce à son expérience, elle donne des conseils très pertinents et elle sait s'adapter aux besoins des clients.
Comptons sur l'expérience des 50 ans et plus. Recrutement, formation, accompagnement. Rendez-vous sur emploi50plus.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
De prime abord, personne ne déprime à l'idée de recevoir une prime. En prime, une prime, c'est une bonne nouvelle.
En ce moment, chez Nissan, la très bonne nouvelle, c'est la prime à l'hybride jusqu'à 7000 euros. Oui, 7000 euros. Pendant les jours hybrides Nissan, ne manquez pas cette prime exceptionnelle sur tous les crossovers hybrides Nissan Juke, Qashqai et X-Trail. Rendez-vous vite en concession Nissan pour en profiter.
Nissan.
Remis jusqu'à 4000 euros sur Juke Hybrid, 5000 euros sur Qashqai et 7000 euros sur X-Trail 9, identifié en stock jusqu'au 30 juin par rapport au prix au 1er mars. Détail Nissan.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Dans quelques instants, la semaine politique revient avec Alexis de la Fontaine qui passe en revue toute l'actualité de la semaine. A tout de suite sur Europe.
Carrefour. Quand vous me dites « L'Aleph est une bière d'abbaye authentique et pleine de caractère, blonde, rubis, brune, ambrée », je pourrais en parler pendant des heures. Eh bien, je vous réponds qu'il y a 50% de remise immédiate sur le deuxième produit Aleph acheté. Et c'est valable sur tout Aleph. Alors rendez-vous jusqu'au 22 juin chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive.
Carrefour. Selon disponibilité en magasin, panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Parfois grand c'est vaste, parce que parfois grand c'est énorme. Et parfois énorme c'est immense.
Mais parfois, grand, c'est juste grand. Et parfois, c'est juste ce qu'il vous faut. Nouveau Dacia Bigster, grand coffre, grande autonomie moteur hybride et petit prix. Dacia Bigster, à partir de 24 990 euros, est maintenant disponible en motorisation GPL. À découvrir durant les portes ouvertes du 12 au 16 juin.
Prix conseillé pour l'achat d'un Dacia Bigster Essential Mild Hybrid 140, 9 hors option selon tarif du 3 juin 2025. Conditions sur Dacia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Europe 1.
Rejoignez-nous sur l'antenne d'Europe 1. C'est la famille, on est tous ensemble.
Je suis tombé amoureux.
Mais de qui ?
D'Europe 1.
Oh, oh,
qu'est-ce que vous feriez, vous, par exemple, si vous gagniez 155 millions ?
Je vous donne la moitié.
Non, mais sérieusement,
il les a déjà.
Je rachète Pascal Pro.
N'oubliez pas qu'ici, on vous aime.
Europe 1.
Et que nous, on vous aime fort.
La radio libre. La semaine politique Europe 1.
Alexis de la Fontaine.
Le président de la République l'a rappelé en début de semaine, il avait eu l'occasion de s'exprimer sur la question, notamment au moment du rapport de la commission Écran, qui a placé le constat, et je me permets de prendre quelques minutes pour revenir sur ce constat, parce qu'aujourd'hui, quand nos enfants, nos adolescents sont confrontés à ce sur quoi ils sont confrontés sur les réseaux, c'est un problème de santé, c'est un problème de société, ces bulles d'enfermement, les comportements addictifs, les troubles de l'attention, l'accès à des contenus violents, des contenus qui ne leur sont pas qui n'ont pas été créés pour les enfants, c'est un problème absolument fondamental. Et nous parlions de souveraineté numérique. La souveraineté numérique, c'est aussi être en contrôle des algorithmes qui aujourd'hui participent à l'éducation de nos enfants, qu'on le veuille ou non, vu qu'ils passent en moyenne 4 heures par jour sur les réseaux à cet âge-là. C'est une question de souveraineté cognitive. Et donc interdire les réseaux sociaux avant 15 ans, ce n'est pas une mesure interdire pour interdire, mais bien pour protéger nos enfants de ces mécanismes-là et s'assurer que des outils numériques qui sont formidables, le numérique c'est bien sûr formidable, j'en suis intimement convaincue, mais qui ne sont pas adaptés aux enfants, nous regardons les dérives bien en face et nous agissons. Comment ? Vous avez parlé d'un certain nombre d'initiatives qui ont été faites en ce sens dans les années précédentes et je veux les saluer parce que chaque texte, chaque association, chaque scientifique qui participe à mener ce combat, c'est un combat qui est long, c'est un combat qui est difficile, c'est un combat aussi en question de société qui est importante et nous aide à avancer, un peu comme sur, peut-être que nous en parlerons aussi, la question de la protection des mineurs face au contenu pornographique où le combat a été long, mais nous avons réussi à aller au bout et c'est bien ce que nous comptons faire aussi pour les réseaux sociaux. Pourquoi donc aujourd'hui et comment on adresse cette question ? On l'adresse d'abord en européen. Pourquoi ? Parce que nous nous sommes dotés en Europe de la régulation la plus ambitieuse sur la question des réseaux sociaux avec le DSA. C'est un texte qui est fondamental parce qu'il dit quelque chose de très simple. Il dit nous sommes 450 millions d'Européens. Et donc 450 millions, ça veut dire qu'il y a plus d'utilisateurs sur les réseaux sociaux en Europe qu'il y en a aux États-Unis. Ça nous permet d'imposer un certain nombre de choses très claires, comme la protection des mineurs, qui est déjà dans les obligations qu'ont les réseaux sociaux vis-à-vis de ce texte-là. Donc c'est déjà écrit comme ça. Pour autant, c'est pas parce que c'est écrit comme ça que la situation est satisfaisante. Quand il s'agit de rentrer sa date de naissance pour créer un compte sur un réseau social, nous avons tous été des enfants, on peut imaginer assez facilement comment on peut modifier sa date de naissance. Donc ce que je plaide au niveau européen, c'est une véritable solution de vérification d'âge. Elles existent, puisqu'elles sont utilisées dans plein d'autres domaines du numérique, notamment sur les sites pornographiques qui se sont mis en conformité, il y en a quelques-uns. Elles existent, ces solutions, mais autant faut-il qu'elles soient utilisées. Et donc, avec le DSA, en ce moment, sans rentrer dans trop de techniques, nous avons une opportunité, puisque nous sommes en train de rédiger précisément ce que nous attendons des plateformes sur la question de la protection des mineurs en ligne. Et donc, mon message est très clair et la Commission le sait très bien, nous lui avons rappelé, nous voulons une vérification d'âge solide, qui n'est pas juste indicative d'une date de naissance, solide, qui permette de garantir l'âge des utilisateurs sur les réseaux, dans les plateformes elles-mêmes qui en sont responsables. Nous le faisons en européen, au Conseil dont je vous parlais, nous étions 7 pays à nous rassembler, la Grèce, l'Italie, le Danemark, la Slovénie, un certain nombre de pays qui, ensemble, avons porté ce combat que j'ai fait inscrire à l'ordre du jour du Conseil et qui avons été rejoints par 13 pays qui, eux aussi, se sont exprimés en ce sens et pour la priorité que l'on doit accorder à cette question. C'est en ce moment donc que ça se joue pour cette partie-là, mais qui est très importante parce que quand je vois des entreprises américaine des réseaux sociaux faire des grandes campagnes de communication pour nous dire qu'il faut vérifier l'âge des enfants et qu'ils ont besoin de la réglementation européenne pour ce faire. C'est bien qu'ils sont d'accord sur le constat que ces réseaux sociaux ne devraient pas être accessibles aux plus jeunes. Et c'est bien qu'ils sont d'accord sur le constat qu'il faut une véritable vérification d'âge. Mais si on regarde bien ces publicités, il y a aussi la question de la fin de la publicité, peut-être que vous les avez vues dans vos journaux, qui dit sur l'App Store. L'App Store, c'est le magasin applicatif pour accéder aux réseaux sociaux. Et ce que je veux dire à ces plateformes, c'est que ce jeu de ping-pong, il va cesser. Nous allons tous prendre nos responsabilités, c'est ce pourquoi on se bat aujourd'hui, pour leur imposer la vérification d'âge. C'est la première étape qui nous permettra de rendre les efforts qui ont été faits, et je les souligne notamment par mon collègue Laurent Marcangeli, qui était au Parlement à ce moment-là, pour rendre cette volonté politique qui est la nôtre, la France, opérable et s'assurer qu'on peut protéger nos enfants des réseaux sociaux.
Bonjour, Ares Kiaïch, correspondant pour le média financier britannique Merger Market. J'avais deux petites questions rapides concernant la souveraineté technologique. Donc Paris est encore la capitale de l'intelligence artificielle. On a vu l'accord entre Mistral et Nvidia hier. J'avais envie de vous poser la question suivante, et vous l'avez sans doute déjà beaucoup trop entendu. Est-ce que la souveraineté technologique passe forcément par des investisseurs étrangers américains et des partenariats avec des géants du numérique? Et enfin, toute dernière question ensuite, il y en a beaucoup pour l'intelligence artificielle, à juste titre, mais est-ce qu'il y a d'autres technologies, d'autres start-up qui attirent les investisseurs étrangers en ce moment en France? Merci.
Je vous remercie. J'aimerais être très claire sur cette question. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre pays rayonne sur la question de la technologie et de l'innovation, c'est bien que nous sommes une économie ouverte. Et je pense qu'il ne faut pas se tromper de combat. Quand nous accueillons des investisseurs étrangers qui choisissent la France pour ses talents, pour son énergie bas carbone, pour construire les infrastructures dont nous avons fondamentalement besoin, la capacité de calcul dont nous avons fondamentalement besoin, si on veut être souverain en intelligence artificielle, c'est une bonne chose. Ce n'est pas l'unique façon de mobiliser des capitaux. Le président de la République a engagé un effort conséquent auprès des investisseurs institutionnels avec Tibi, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui a porté ses fruits aussi, qui a permis de faire que nous avons maintenant en France, en Europe, des fonds d'investissement qui sont capables de faire des gros tickets de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros pour soutenir nos start-up. Est-ce que c'est suffisant? Non. Est-ce qu'il y a aussi une réponse européenne sur la mobilisation du capital vers l'innovation et vers l'investissement? Bien sûr. Et je crois que c'est aussi un des grands sujets de discussion en ce moment au niveau de l'Union européenne. Mais encore une fois, la souveraineté, ce n'est pas fermer les portes. C'est avoir des alternatives, avoir le choix. Et je pense que ça, c'est très important de le rappeler. Sur les outils de technologie, oui, l'intelligence artificielle aujourd'hui capte une grande partie du marché, vous avez raison. Je pense que déjà c'est une bonne chose, parce qu'on peut regarder en arrière et se dire il y a un certain nombre de révolutions technologiques où en européen on est peut-être un peu aujourd'hui dans une position de fragilité, je pense au cloud. Il faut se le dire, il faut se dire les choses de façon honnête. Quand 83% du marché du cloud est capté par des acteurs extra-européens, c'est le constat. Ça ne veut pas dire que la bataille est finie. On a des acteurs formidables ici en Europe et je refuse que l'on dise le contraire, parce que je pense que ça aussi, ça intéresse certains acteurs non extra-européens de le laisser entendre. Je pense à OVH, je pense à Scaleway, je pense à NumSpot. Bref, il y en a une quinzaine déjà ici qui sont très mobilisés pour donner des solutions sur l'hébergement de données. Mais sur l'intelligence artificielle, le combat, il est maintenant. Il est maintenant parce qu'on a tous les ingrédients. On a les talents, on a l'énergie, encore une fois, bas carbone. On a cet écosystème entrepreneurial qui fait que Paris est la première place pour l'IA avec plus de 1000 startups dans tous les domaines, la santé, la transition écologique, etc. Donc oui, c'est une bonne chose que quand la course est là, nous arrivions à attirer les investissements sur cette technologie. Ce n'est pas la seule technologie. On pourrait parler du quantique, qui est aussi quelque chose sur lequel nous sommes très mobilisés. On pourrait parler aussi des technologies de la vie de tous les jours, parce que ça aussi, c'est la French Tech, c'est Doctolib qui nous permet d'avoir une relation différente avec notre médecin et le fait de prendre rendez-vous. C'est Blablacar pour partager une voiture. Mais sur l'IA, je crois que le moment, c'est vraiment maintenant. Et donc, je suis très fière qu'on puisse attirer tous ces investissements.
Bonjour, c'est Dimitri Pavlenko.
7h-9h, Europe 1 Matin.
Écoutez, Europe 1, c'est être libre.
libre de s'informer.
Cet entrisme qui pourrait faire basculer toute la société française dans la charia.
Nous sommes la patrie de l'esprit critique, des lumières et des droits de l'homme. Donc nous sommes en première ligne et c'est pour ça que nous sommes attaqués.
Cet entrisme instrumentalise beaucoup de nos compatriotes de confession musulmane en leur disant vous êtes des victimes.
Nous ne répondrons pas aux défis que nous lancent les frères musulmans par un nihilisme d'État.
Europe 1, la radio libre.
Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko.
À demain matin, 7h-9h sur Europe 1.
La sixième édition du prix littéraire Europe 1 GMF a récompensé Le Lit Clos de Sophie Broca. Un livre parfaitement en phase avec les valeurs humanistes défendues par le prix.
L'écoute, l'attention, la bienveillance, la solidarité. Là, je pense que c'est ce qui met en lumière la plus belle part de notre humanité. C'est des valeurs qu'il faut qu'on cultive. Je suis du coup encore plus honorée que ce soit ces valeurs-là qui soient exaltées dans ce prix.
Le Lit Clos de Sophie Broca, lauréate 2025 du prix littéraire Europe 1 GMF. Disponible dès maintenant en librairie.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron ?
Du croustillant ?
Ah oui, en ce moment, les 4 baguettes croustilles dont une offerte sont à 2,85€.
72 centimes la baguette ! C'est une bouchée de pain ?
Bah on est mal.
Lidl est vraiment le moins cher et vous le prouve sur lidlestmoinscher.fr. 250 grammes, 2,85€ le kilo pour 4 baguettes, 3,80€ le kilo pour une baguette. Cuit sur place dans les supermarchés disposant d'un point chaud. Offre valable jusqu'au 18 juin. Plus d'informations sur lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Alors comme je vous le disais, madame, avec la rénovation énergétique à 1 euro, l'État prend tout en charge.
Je sais pas, ça m'embête de décider tout de suite.
Mais alors, je comprends. Le problème, c'est que si vous signez pas maintenant, vous pourrez plus en bénéficier et ça va vous...
Non, n'insistez pas. Je préfère un autre avis d'abord.
La réno énergétique à 1 euro, ça n'existe pas. Les arnaques, si. Avant de dire oui, demandez un autre avis. Contactez votre conseiller France Rénov sur france-rénov.gouv.fr, le service public de la rénovation de l'habitat.
Leclerc, bonjour.
Allô, oui, bonjour. Je vous appelle parce que je suis inquiet.
Ah bon, mais qu'est-ce qui vous arrive ?
Ben voilà, j'adore les yaourts Père de lait, alors je vous en ai pris 2 packs. Mais là, j'en bois 3 dans mon frigo. Est-ce que c'est normal ?
Oui, c'est normal. C'est Leclerc. Car du 17 au 28 juin, pour l'achat de 2 packs de 4 pots de perles de lait vanille, le 3e est offert.
Ah, vous m'avez rassuré.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Lait Origine France, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
C'est ça, c'est le nouveau Citroën C3 Aircross. Il est beau, hein ? Et pour hiberner avec vos oursons, on passe facilement de 5 à 7 places. Oui, bah c'est vrai que c'est pratique, hein.
Pour les amoureux de grands espaces et de confort, nouveau Citroën C3 Aircross à partir de 19 700 €. Également disponible en électrique et hybride. Découvrez-le pendant les portes ouvertes du 13 au 16 juin.
Citroën.
Tarif conseillé à particulier jusqu'au 30 juin pour l'achat d'un nouveau C3 Aircross U hors option. Détails sur citroën.fr selon réseau participant. Au quotidien, prenez les transports en commun.
La semaine politique Europe 1.
Alexis de la Fontaine.
Bonjour Madame Chapaz, Cartesono. Donc je suis le fondateur d'un magazine qui utilise justement l'IA, les métiers du numérique, pour inclure les plus fragiles, notamment porteurs d'autisme ou d'autres handicaps mentaux sur le marché de l'emploi. Le fonctionnement européen fait qu'aujourd'hui, via le TFUE, donc l'article 114, ce sont des certifications qui permettent de structurer le marché intérieur qui sont ratifiées par les États eux-mêmes. Est-ce que vous pouvez nous dire, et pour quelles raisons, quelles sont les prochaines certifications que la France va adopter pour sécuriser en tout cas et mieux contrôler son marché intérieur sur un plan interne et non pas sur un plan européen ?
Je vous remercie pour cette question. Je m'exprimerai que sur le numérique. Vous me permettez de répondre à une question qui est en effet la relation entre ce que l'on peut faire en droit français et en droit européen et pourquoi les combats que l'on mène notamment sur la mobilisation de la commande publique, c'est un combat que l'on mène au niveau européen. Parce que aujourd'hui, avec la doctrine SecNumCloud que nous avons menée avec l'ANSSI depuis 2016 et la doctrine Cloud au centre de 2023, nous sommes allés un peu au bout de la façon dont nous pouvons invoquer la sécurisation des données pour protéger les données sensibles. Mais est-ce que cela est suffisant ? Non, je pense qu'il faut aller plus loin pour mobiliser, encore une fois, l'innovation et avoir des leviers sur le développement économique de nos entreprises. Et ça, c'est un travail que l'on fait en européen. Mais je ne peux pas vous en dire plus pour le moment.
Enfin, une deuxième question. Vous étiez beaucoup exprimé en mars lors de l'apparition des tweets sur Cyril Hanouna avec les caricatures antisémites réalisées par un parti politique. Est-ce qu'aujourd'hui, de nouvelles régulations sont prévues contre certaines IA génératives qui produiraient du contenu à caractère diffamatoire en France en tout cas.
Le cadre réglementaire sur l'IA, il est là. Il est posé, il a été d'ailleurs l'objet d'un grand débat, de grandes consultations. Et encore une fois, je pense que c'est un bon exemple de montrer que ce que nous avons fait avec le règlement sur l'intelligence artificielle en Europe, ce n'est pas de la régulation pour faire de la régulation. C'est de la régulation pour poser un cadre, pour répondre justement à ce type de problématique et pour dire qu'en Europe, nous ne régulons pas la technologie, nous régulons les usages. Nous disons qu'il y a un certain nombre d'usages avec l'IA qui sont des usages interdits en Europe. Par exemple, l'IA qui pourrait, avec toutes les informations qu'elle aurait sur les personnes dans cette pièce, définir l'orientation sexuelle d'un individu. Nous ne voulons pas de ce type d'usage. Mais ce n'est pas... c'était le cadre est posé, nous sommes en train de travailler à sa mise en œuvre, et je le dis très clairement, dans sa mise en œuvre, nous plaidons, je plaide pour que nous soyons les plus simples possibles afin de ne pas entraver l'innovation, parce qu'encore une fois, la souveraineté, c'est avant tout avoir des acteurs de l'innovation qui innovent et qui grandissent, qui passent à l'échelle ici en Europe, et donc il faut que ce cadre, dont les objectifs sont les bons, n'entrave pas l'innovation. Mais ce cadre, il est très complet aujourd'hui pour encadrer la technologie, et je crois qu'il doit nous permettre de faire quelque chose, c'est de dire, nous avons créé, nous avons défini le cadre de confiance pour accélérer finalement la diffusion d'intelligence artificielle. C'est un outil au service de la diffusion et pour dire, encore une fois, voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on ne veut pas et voilà comment on l'encadre.
Je vous remercie.
Merci.
Bonjour Madame la Ministre, Sébastien Krebs pour RMC. Je reviens sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Question complémentaire, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le calendrier? Combien de temps est-ce que vous vous donnez pour aboutir au niveau européen? Et si ça ne fonctionne pas, est-ce que la France peut le faire toute seule? Et est-ce que vous êtes prêt, le cas échéant, si les plateformes ne jouent pas le jeu, à les sanctionner? Est-ce qu'on peut couper les réseaux sociaux en France? Merci.
Je vous remercie pour cette question. Je me donne 3 mois pour travailler avec mes partenaires européens et arriver, notamment sur cette question de la vérification de l'âge, à un système qui fonctionne et qui protège véritablement les enfants. Parce qu'un chiffre que je n'ai pas donné tout à l'heure, dans les conditions générales d'utilisation des plateformes, il y a déjà écrit que c'est interdit aux moins de 13 ans. Et pour autant, 3 enfants sur 4, 2 moins de 13 ans, sont déjà sur les réseaux. Donc c'est quand même assez clair ce qui se passe aujourd'hui. Donc je me donne 3 mois. Si nous n'y arrivons pas, le président de la République l'a dit en début de semaine, il y a eu d'autres exemples, je pense au site pornographique notamment, dans lequel la France a pris les devants. Et ce n'est pas, encore une fois, quelque chose que l'on s'interdit, parce que cette question, elle est fondamentale. Elle est fondamentale, et si on nous dit que c'est impossible, notre réponse, ça sera d'aller jusqu'au bout et de ne rien lâcher. Et aujourd'hui, ce qui se passe sur les contenus pornographiques, et encore une fois, je salue le travail des associations qui sont mobilisées sur cette question depuis 15-20 ans, sur le travail des différents parlementaires, notamment dans le cadre de la loi SREN, qui ont été nombreux à porter cette obligation de vérification de l'âge sur les sites pornographiques. On nous avait dit que ce n'était pas possible. Techniquement, c'est possible, les solutions sont là, et elles sont de confiance. Et je pense que c'est important de le répéter, elles sont en double anonymat, parce que c'est l'exigence de cette loi. La protection des enfants ne doit pas non plus être au détriment de la vie privée des adultes, et les sites internet qui diraient le contraire mentent. Ils mentent pour des raisons purement commerciales. Donc, nous avons trouvé le cadre de la loi, nous avons trouvé les solutions techniques, et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que dans le même texte DSA et le même article 28 sur la protection des mineurs, nous avons en Europe une discussion très avancée sur le fait d'imposer cette vérification de l'âge aux sites de contenu pour adultes, comme l'a fait la France en avance. Donc nous avons été en avance sur cette question-là, nous saurons être en avance s'il le faut sur la question des réseaux sociaux.
Et sur les sanctions ?
Sur les sanctions, le DSA est très clair, 6% du chiffre d'affaires, c'est des montants qui se comptent en plusieurs centaines de millions d'euros hein, pour certains des acteurs, c'est des montants très conséquents. Et si les sites ne respectaient pas les obligations qui leur sont imposées dans le DSA, oui, il y a la possibilité d'interrompre le service. Est-ce que nous voulons en arriver là ? Non. Je compte aussi sur la responsabilité des plateformes, que j'ai réunies d'ailleurs toutes ensemble il y a quelques mois de ça, en début d'année dans mon ministère, et qui, je crois, sont d'ailleurs d'accord sur la question de la protection des mineurs, puisqu'ils en font la publicité eux-mêmes. Donc nous allons avancer, en tout cas nous sommes très déterminés.
Une dernière question sur le numérique ?
Oui, bonjour, Léopold Debert de BFM TV. J'entends très bien tout ce que vous dites sur la régulation, etc. Mais vous savez très bien comme moi qu'il suffit d'utiliser un VPN pour contourner tout ça. Et qu'en fait, la régulation aujourd'hui, elle peut très bien se faire en 3 clics, en prenant un VPN en Amérique du Sud ou en Australie ou je ne sais où. Qu'est-ce que ça change en fait ?
Toute règle, il y aura du contournement. C'est-à-dire, on va pas... Il faut aussi se le dire. Dans toute règle, il y aura du comportement. Quand on a un âge limite pour consommer de l'alcool, il y a des enfants, des mineurs, qui aujourd'hui arrivent à consommer de l'alcool. C'est la réalité. Pour autant, est-ce que c'est pour ça qu'on dit on ne fait rien ? Non. Parce que quand on vote cette loi, que le Parlement vote cette loi, qu'on la met en place et que les sites aujourd'hui, certains grands sites, décident de quitter la France plutôt que de se mettre en conformité, moi ce que je vois c'est que ça marche. C'est que nous avons une exigence qui est qu'en France, nous avons décidé, le Parlement a décidé puisqu'il a voté cette loi, de renforcer la protection des enfants, des mineurs, sur les sites pornographiques en vérifiant l'âge. Donc il y aura des contournements, mais pour autant, deux points qui font dire que c'est très important ce qu'on fait. Premier, les fameux VPN que vous mentionnez sont très majoritairement aujourd'hui utilisés par des adultes. Deuxième, c'est les datas que nous avons. Deuxièmement, un enfant sur trois tombe sur du contenu pornographique sans l'avoir cherché. C'est-à-dire qu'il va sur Internet, il cherche autre chose et il tombe sur ces images. Et c'est souvent sa toute première rencontre avec ce type de contenu-là. Et je veux juste qu'on se dise l'âge dans lequel on parle. Aujourd'hui, en France, dans ce pays, un enfant sur deux, un garçon sur deux, des 10 ans, une fille sur trois, des 10 ans, consomme du contenu pornographique régulièrement. Nous, on ne fait pas ça pour entraver la liberté des adultes, on le fait pour protéger les enfants et faire appliquer quelque chose qui existe dans le monde physique, de façon très claire, c'est que ces contenus-là sont interdits aux mineurs depuis plus de 30 ans. Donc oui, il y aura du contournement, mais moi je pense que ce qu'on fait, c'est extrêmement important et on montre qu'on peut à la fois innover, on est une grande terre d'innovation, mais aussi regarder les dérives du numérique bien en face, y répondre et agir collectivement.
Mais juste par extension, si on élargit la question à ce qu'on évoquait en début de semaine, c'est-à-dire les achats de couteaux en ligne, par exemple, pour les jeunes, que vous souhaitez réguler, essayer de... Peut-être vous pourrez répondre après, mais que vous essayez de réguler par ces grands géants comme Amazon, etc. Là aussi, on peut imaginer que sur ces questions-là, les personnes qui veulent acheter ce type de contenu, elles ne tombent pas dessus par hasard, elles font la démarche d'y aller. Donc là, typiquement, il peut y avoir une démarche de détournement assez forte sur ces questions-là.
Oui, il faudra étudier toutes les manières de réduire le contournement, bien sûr, bien sûr. Il faut faire preuve d'agilité, poser les règles, s'assurer de comment elles sont ensuite concrètement appliquées dans la vraie vie. Et je pense que nous y serons très attachés.
Je vous remercie.
Merci.
Merci, Cara. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, je ne sais pas qui j'appelle, mais en direct. Je suis à votre disposition maintenant pour répondre à vos questions.
Bonjour, Lise Roseveille pour France Inter. Est-ce que vous nous confirmez la nomination lors du Conseil des ministres d'Augustin Augier à la tête du secrétariat général à la planification écologique ? Et si oui, sur quels critères a-t-il été choisi ? Pourquoi lui ?
Alors, c'est une décision qui revient effectivement au président de la République et au Premier ministre. Effectivement, je vous confirme cette nomination ce matin, qui a été l'objet d'une mise en compétition d'un certain nombre de candidats avec des critères de choix dont je ne dispose pas à cette heure, mais qui sont des critères de choix d'expérience, naturellement. Et c'est sur cette base-là que ce choix a été réalisé par le président de la République et le Premier ministre et proposé ce matin en Conseil des ministres.
Bonjour Thomas Soulier pour Le Parisien aujourd'hui en France. Hier, Gérald Darmanin a émis le souhait, et même plus que le souhait, d'avoir une grande loi sur la justice. C'est bel et bien un projet de loi dès le mois de septembre. Est-ce que vous confirmez que le gouvernement mettra à l'ordre du jour du Parlement un projet de loi sur la justice dès la rentrée de la session extraordinaire au mois de septembre ?
Vous avez compris que notre volonté d'avancer sur un certain nombre de sujets de politique pénale, effectivement, est très très forte, encore accentuée par les événements, non pas uniquement nos gens, mais les événements derniers. Et donc, les propositions qui sont faites par Gérald Darmanin d'un projet de loi sur la justice pénale avancent. Elle a le soutien du gouvernement. Sur les questions d'agenda parlementaire, vous savez que l'automne est en général bien pris par la question budgétaire. Et vous savez ô combien la question budgétaire cette année est importante. Donc je n'ai pas d'éléments sur le planning exact de ce projet de loi, mais il sera présenté naturellement parce que c'est la volonté de ce gouvernement d'agir en ce sens.
Merci, merci.
Bonjour Madame la Ministre, Julie Mathias, CNews. À la suite du drame de Nogent, est-ce que les mesures de renforcement de l'autorité parentale ont été abordées ce matin au Conseil des ministres ? Et si oui, lesquelles ?
Face au drame de nos gens, je le disais un petit peu en filigrane tout à l'heure, en réalité, la solution n'est pas unique, elle est globale et elle doit aller de la prévention, de la détection, de la responsabilité, responsabilisation des parents en leur donnant les moyens de cette responsabilisation, notamment par rapport à l'usage du numérique dont on vient de parler, ou des écrans, ou des séries, etc. Elle doit passer par les moyens de détection dans les établissements. Elle doit aller jusqu'à la réponse pénale si on échoue sur tout le reste. C'est donc une réponse globale et tous ces points-là ont été abordés de façon globale ce matin par le président de la République et le Premier ministre.
Bonjour Madame la Ministre, Astrid Besmorian de France Télévisions.
Bonjour.
Un rapport parlementaire préconise de réformer les APL. Le gouvernement compte-t-il explorer à minima cette piste ou carrément la suivre ?
Alors, les rapports parlementaires sont toujours les bienvenus, et c'est une ancienne parlementaire qui vous le dit, pour effectivement apporter des éléments de réflexion au gouvernement. Dans le cadre du budget, vous savez que les APL font toujours l'objet de beaucoup d'attention de nos collègues de Bercy, parce que c'est un montant conséquent de dépenses publiques, mais qui ont derrière l'avantage de soutenir et de rendre accessible le logement à la plupart de nos concitoyens, notamment les plus modestes. Toutes les pistes sont étudiées. Vous savez qu'aucune décision n'est prise dans les arbitrages du Premier ministre et du gouvernement sur le budget 2026. Je suis certaine que tout sera regardé avec beaucoup d'attention, comme tout ce qui va nous être présenté d'ici le 15 juillet.
Merci. Et bonjour Madame la Ministre, Pierrick Bonneau, France Info. Bruno Retailleau annonce la dissolution de la Jeune Garde et de Lyon Populaire. Est-ce le signe que vous mettez ultra-gauche et ultra-droite sur le même plan, dans la même case ?
C'est le signe de la volonté du Premier ministre et bien sûr du ministre de l'Intérieur d'interdire tous les regroupements, tous les rassemblements qui mènent à la violence. C'est le cas de ces deux groupements que vous citez. Il se trouve qu'il y en a un d'extrême gauche et un d'extrême droite, mais qui ont exactement les mêmes méthodes, les méthodes d'entraînement au combat, des méthodes très offensives, très violentes, et qui prônent la violence dans le combat politique et donc qui sont orthogonales aux valeurs de la République. Et donc, quelle que soit l'origine politique de ces regroupements, le ministre de l'Intérieur est déterminé à les dissoudre.
Est-ce qu'il y a d'autres dossiers de
Il y a d'autres dossiers qui sont instruits par le ministre de l'Intérieur. Vous savez qu'il a la volonté d'avoir à sa disposition au ministère de l'Intérieur une juridiction qui lui permette d'aller plus vite sur ce démantèlement. C'est donc la volonté, encore une fois affichée, de lutter contre tous ceux qui sont, qui ont des actions qui sont, encore une fois, contraires aux valeurs de la République.
Bonjour Madame la Ministre, Thomas Després pour RTL. Est-ce que le Président de la République s'est exprimé ce matin suite au retour en France de ces quatre ressortissants français qui étaient en Israël après l'arrestation de cette flottille à Gaza ? Est-ce que le chef de l'État s'est exprimé sur le sujet et qu'a-t-il dit ?
Le Président de la République s'est en effet exprimé sur ce sujet pour redire que la priorité, et Jean-Noël Barrot l'a confirmé ensuite, la priorité de la France, c'est d'avoir un cessez-le-feu à Gaza, d'obtenir l'arrivée massive d'aide humanitaire pour les Palestiniens, et c'est de libérer les otages et de rentrer et de nourrir ce processus que nous espérons positif d'ici la fin du mois de juin pour obtenir une solution plus durable sur cette partie du monde. Il a évoqué le travail remarquable qui avait été fait par nos services consulaires pour à la fois protéger et rapatrier nos concitoyens, même si ceux-ci avaient été mis en garde sur la dangerosité de leur action.
Est-ce qu'il a dénoncé des pressions qui ont été faites sur ses services consulaires, notamment ?
Il a notamment regretté les services, l'engorgement de ses services consulaires, la cellule de gestion de crise ici au Quai d'Orsay, qui est une cellule, je le dis pour ceux qui nous écoutent, absolument fondamentale pour la sécurité des Français, où qu'ils soient dans le monde, et qui est capable de se mobiliser en quelques heures pour venir en aide aux Français qui sont en souffrance dans le monde et qui ont été engorgés encore aujourd'hui par des milliers de mails. C'est irresponsable et c'est vraiment... Nous avons apporté notre soutien à tous ces services, à la fois de gestion de crise et consulaire.
Pardonnez-moi, irresponsable, ce sont les mots du président ?
C'est le mien en tout cas aujourd'hui.
Merci.
Juste une question complémentaire, Sébastien Krebs, RMC. Hier, le Premier ministre dénonçait l'instrumentalisation d'Alafi par Rima Hassan du conflit à Gaza. Est-ce que ce terme a été repris par le président en Conseil des ministres? Est-ce que vous le reprenez aujourd'hui?
Le terme n'a pas été repris par le président de la République dans son allocution. L'esprit était évidemment le même. Je vous redis que la position de la France et de l'action de la France sur cette situation est d'obtenir un cessez-le-feu, d'obtenir l'aide humanitaire, et c'est de pas instrumentaliser pour des effets de manche ce drame qui est en train de se passer à la fois en Palestine et pour les otages israéliens. C'est vraiment de trouver des solutions qui soient des solutions construites dans la région, des solutions de paix durables. Et ça, c'est pas de la communication, c'est du travail de fond qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'abnégation.
Bonjour Madame Prima. Suite au drame de Nogent, Yannick Neuder a pris la parole dans plusieurs médias. Il a identifié deux pistes de travail. C'est une incitation à des étudiants en médecine de choisir plus simplement la psychiatrie ou peut-être les inciter à plus s'intéresser à cette spécialité. Qu'en est-il de ces discussions avec les différentes organisations et les syndicats d'interne et d'externe? Et le deuxième point qui a été identifié, c'est une formation au premier secours de prise en charge de la santé mentale, notamment par les personnels scolaires et les infirmières scolaires, avant que la France ait une augmentation de son nombre de psychologues et de médecins qui pourront prendre en charge ces problèmes de santé mentale. Est-ce qu'il s'exprimait ce matin sur ces deux possibilités qu'il a présentées dans les médias ?
Alors, il ne s'est pas exprimé effectivement pendant le Conseil des ministres, mais voilà typiquement un élément de la réponse à la propagation de la violence et qui mène au drame que nous avons vu à Nogent. Vous savez que Michel Barnier, quand il était Premier ministre, avait fait de la santé mentale une grande cause qui a été reprise par le Premier ministre François Bayrou. Et naturellement, Yannick Neuder, ministre de la Santé, sous l'autorité de Madame Vautrin, travaille ce sujet de la santé mentale à la fois à court terme et aussi à long terme. À court terme, c'est évidemment une acculturation de l'ensemble du personnel, de la communauté éducative pour percevoir les signes de déficience mentale auprès des élèves qui pourraient arriver dans les élèves. C'est une acculturation à ces différents signaux, savoir comment y répondre ou en tout cas diriger vers du personnel spécialisé et des médecins et des psychologues. C'est une augmentation aussi des moyens et des consultations gratuites pour les consultations des étudiants, des élèves de la cellule psychiatrique et psychologique, évidemment. Et puis c'est un travail sur la formation et le fait d'orienter un certain nombre d'étudiants vers les métiers de la psychologie, de la psychiatrie, pour améliorer le nombre de personnes qui sont aujourd'hui en charge de ces questions sur notre territoire. C'est important parce qu'avec les numerus clausus, avec un certain nombre de décisions qui étaient prises, il faut que l'on redonne un élan à ce secteur de la médecine qui est en souffrance aujourd'hui.
Enfin, une deuxième question rapide. Est-ce qu'on a aujourd'hui des informations sur les auteurs des mails qui ont été destinés à la cellule de crise liée en fait, au départ de Rima Hassan et plusieurs personnes en Palestine? Et si oui, est-ce qu'ils sont liés à des organisations politiques?
Alors, je n'ai pas cette information. Je vous renvoie vers le Quai d'Orsay et éventuellement vers une potentielle action pour regarder qui est derrière. Mais pour l'instant, je n'ai pas cette information, donc je ne ferai pas de lien.
Je vous remercie.
Pierre Bonneau, France Info à nouveau. Quelle est la position du gouvernement sur la taxe Zucman qui vise les ultra-riches, qui a été votée à l'Assemblée?
Alors, vous savez, je le répète, qu'aucune décision et aucun arbitrage n'est mené aujourd'hui. Ce qui est très important, et d'ailleurs que le président de la République a rappelé ce matin, c'est de maintenir un écosystème pour les entreprises qui soit un écosystème favorable, à la fois pour les entreprises, à la fois pour ceux d'entre nous qui ont les capacités d'investir dans l'économie française, dans la souveraineté. Donc le président de la République a en creux a indiqué qu'il n'y était pas favorable, puisqu'il a parlé des initiatives parlementaires qui allaient à contresens de cette attractivité qu'il bâtit depuis 2017 et dont la fiscalité fait évidemment partie.
Merci.
Pas d'autres questions ? Eh bien, je vous remercie. Et je vais, voilà, et je vais vous dire, comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, je vais maintenant répondre à l'une des très nombreuses questions qui ont été posées sur l'application Paul vendredi, puisque j'avais ouvert vendredi une boîte à questions avec la participation de l'application Paul, Paul comme politique, je le rappelle, POL. Et donc, je remercie tous ceux qui se sont mobilisés. Et comme la thématique que nous avions donnée était celle du numérique, voici l'une des questions qui a été la plus posée, qui est un peu rapport à ce que vous posiez tout à l'heure, en rapport à ce que vous posiez tout à l'heure à Clara Chapaz. Quel système de vérification d'âge envisagez-vous pour restreindre l'accès aux réseaux sociaux et serait-ce une atteinte au RGPD ? C'est donc une question groupée. Donc pour répondre, je vais vous répondre à la chose suivante. Des solutions techniques de vérification d'âge existent d'ores et déjà. Elles garantissent aux utilisateurs surtout la protection de leurs données personnelles. Concrètement, il s'agit de passer par des prestataires extérieurs qui utilisent notamment des techniques de chiffrement pour vérifier l'âge des utilisateurs. Ainsi, les réseaux sociaux ne disposent pas directement des preuves d'âge, comme des pièces d'identité, des photos, des selfies, mais elles reçoivent simplement une confirmation de l'âge, de la validité de l'âge. De tels dispositifs sont d'ores et déjà déployés dans le cadre de l'interdiction des sites pornographiques aux moins de 18 ans. Clara Chapaz vous l'a indiqué tout à l'heure. Et cet été, la Commission européenne présentera un outil commun de vérification d'âge. Il est donc possible pour nous de vérifier l'âge des utilisateurs dans le respect de la RGPD. Nous savons le faire et, je répète, nous voulons le faire. Voilà. Merci beaucoup. Merci cette fois. Merci beaucoup.
La semaine politique Europe 1.
Alexis de la Fontaine. Carrefour.
Quand vous me dites « L'Aleph est une bière d'abbaye authentique et pleine de caractère, blonde, rubis, brune, ambrée », je pourrais en parler pendant des heures. Eh bien, je vous réponds qu'il y a 50% de remise immédiate sur le deuxième produit Lef acheté. Et c'est valable sur tout Lef. Alors rendez-vous jusqu'au 22 juin chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive.
Carrefour. Selon disponibilité en magasin, panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Dans les années 60, la France construisait un avenir plus ouvert. Révolution musicale, conquête spatiale, émancipation des femmes. En 2025, Renault remet la liberté sur la route avec nouvelle Renault 4. Design emblématique, habitabilité légendaire, désormais 100% électrique et ultra connecté. Découvrez Renault 4 e-tech électrique, borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Valeur borne 990€ hors taxe, hors installation pour forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 30 juin. Condition Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Alors, monsieur, bonne nouvelle, vous êtes bien éligible à l'aide pour rénover votre logement. Il me faut juste votre numéro fiscal pour l'activer.
Là, maintenant ?
Oui, non, mais c'est normal, hein, c'est une formalité.
Mais je...
Le problème, c'est que si on l'active pas aujourd'hui, vous pourrez plus bénéficier de cette aide.
Bon, écoutez, j'aime pas qu'on me presse, j'ai besoin d'un autre avis.
Un numéro fiscal, c'est confidentiel et ce n'est pas pour les escrocs. Avant de dire oui, demandez un autre avis. Contactez votre conseiller France Rénov sur france-rénov.gouv.fr, le service public de la rénovation de l'habitat.
Avant, la Révolution française, c'était ça. Mais maintenant, c'est ça. Bien plus confortable, non ? Citroën C3, avec ses sièges et ses suspensions Advance Comfort. À partir de 15 750 euros pendant les portes ouvertes du 13 au 16 juin. Disponible également en version électrique et hybride.
Citroën.
Tarif conseillé à particulier jusqu'au 30 juin pour l'achat d'une Citroën C3 U9 hors option. Détails sur citroën.fr selon réseau participant. Pensez à covoiturer.
Europe 1.
Écoutez, c'est la grande famille d'Europe 1.
J'écoute Europe 1, je suis un fidèle auditeur. Je dis ça depuis ma tendre enfance, en fait.
Quel plaisir pour moi de vous parler, moi qui vous suis tous les jours.
Je vous écoute tous les jours, c'est de la bonne humeur. Je ris en voiture en vous écoutant quand je rentre du travail. Et j'ai vraiment passé un bon moment.
Soyez solidaires les uns des autres. Aidez-vous toujours dans la vie.
Respirez.
Europe 1.
Et puis, n'oubliez pas, la vie est belle.
La radio libre.
16 millions, c'est l'équivalent de la population de Paris, Bordeaux et Lyon réunis. C'est aussi le nombre de personnes dans le monde qui ont choisi Renault Clio depuis 1990. Et ce nombre continue d'augmenter, puisque Clio est la voiture la plus vendue en France en 2024. Renault Clio Génération est en édition limitée dès 16 900 euros. Portes ouvertes du 12 au 16 juin.
Source Renault, immatriculation mondiale de 1990 à 2024. Source 3 à data, janvier 2025. Clio Génération SCE 65 heures option. Offre à particulier du 1er au 30 juin selon stock disponible. Voir Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année
dans la catégorie fruits et légumes.
Vous avez un nouveau message.
Allô patron, ils nous ont encore pris de court chez Lidl. En ce moment, le kilo de courgettes est à 1,39€ et même à 97 centimes avec Lidl Plus. On peut dire qu'elles en jettent, les courgettes. Et pour nous, c'est ratatouille.
97 centimes le kilo de courgettes chez Lidl avec Lidl Plus. Là, je suis vert. On est mal.
Lidl est vraiment le moins cher et vous le prouve sur lidlestmoinscher.fr. Catégorie 1, origine France. Offre valable jusqu'au 18 juin. Plus d'informations sur lidl.fr.
Salut, c'est BYD, le leader mondial et expert du véhicule électrique et hybride. BYD Dolphin Surf, la nouvelle citadine 100% électrique à partir de 19 990€. Du 11 au 30 juin, viens l'essayer et tente de la gagner. Voir conditions et règlements complets sur le site byd.com/FR. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Pensez à covoiturer.
Je vois la détresse de mon mari. Il était pâle, il était pas bien.
Quand Marine a été cambriolée, Amaury, son agent mutuel de Poitiers, était là pour elle.
Donc du coup, j'appelle Amaury et mon mari me regarde et je lui dis « Mais t'inquiète pas, il arrive. » « Ah, mais il arrive là maintenant ?» Oui, je lui dis « Il arrive maintenant.
Oui. » On est présent, on se déplace, on vient, on est l'assureur de proximité, on n'est pas une plateforme téléphonique.
Et il m'a accompagnée du début jusqu'à la fin, donc ça vaut de l'or.
Mutuelle de Poitiers Assurance, votre assureur vous connaît. Et pour vous, ça change tout.
Travailler avec une personne de plus de 50 ans, quelle idée !
Ben moi, ça a été la réponse à tous mes problèmes. Ça fait 11 ans qu'Isabelle travaille dans mon entreprise et c'est l'employée la plus fiable. Elle se forme en continu et c'est elle qui s'y connaît le mieux en IA.
Comptons sur l'expérience des 50 ans et plus. Recrutement, formation, accompagnement. Rendez-vous sur emploi50plus.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement. On peut penser qu'un influenceur va nous aider à choisir notre voiture. Ou on peut décider de faire confiance à plus de 800 000 conducteurs de Dacia Sandero. Dacia Sandero, la voiture la plus vendue aux particuliers depuis 9 ans en France, est à découvrir à partir de 99€ par mois pendant les portes ouvertes du 12 au 16 juin. Offre